Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, je suis au refuge Droit de Vivre pour les chats à Vif, qui existe depuis 1988. Et je suis avec Manon et Mélanie, donc vous êtes toutes deux soigneuses. Bonjour à vous.
Bonjour.
Avec un petit chat sur les genoux, c'est bien mieux. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs un peu l'histoire du refuge et comment il a été fondé, pourquoi?
Alors, donc comme expliqué, il a été fondé en 88 par Madame Biret. Donc le refuge dans lequel on se trouve, c'était sa maison au départ, qui quand elle est décédée, elle a légué la maison à l'association. Donc voilà, le refuge pour nos petits zouzous.
Ça c'est Savannah, une petite minette à l'adoption aussi. Hein. Oh là là.
Toute petite.
Oui, c'est petit gabarit. On en a beaucoup, alors on n'en fait pas de chatons. On prend que des chats adultes, généralement c'est à peu près le minimum, je dirais 4 ans. Et puis ouais, non, que des adultes, mais souvent après on a des chats plutôt d'une dizaine d'années.
Comme je disais, on a 2000 m² de terrain. Nous, notre refuge, il a 40 ans. Il a été créé à la base pour accueillir justement tout ce qui est les chats sauvages, handicapés, malades qui peuvent avoir le sida. On a un enclos spécifique pour tous les chats en fait qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir être adoptés. Donc comportement agressif, très craintif, vivant dans la rue. Donc quand ils arrivent ici, on a d'abord un espace quarantaine où ils sont où ils arrivent. Donc vous avez deux boxes. Et ensuite la pièce, au début ils vont aller dans les box. Donc les chats en fait qui arrivent ici sont automatiquement, testés FIV, FELV, typhus. Okay. Ils sont vaccinés, ils sont identifiés du coup au nom de notre refuge et on voit surtout s'ils sont porteurs de maladie ou non.
Ça va ma beauté?
On peut démarrer l'enregistrement.
Ils ronronnent déjà.
Fais-nous ta voix, il miaule sans voix.
Et toi, ça fait combien de temps que t'es soigneuse là au refuge?
Moi, ça fait 2 ans. En fait, de base, j'étais aide-soignante et puis j'avais fait des stages de soigneur animalier dans des centres vétérinaires, par exemple à Nantes. Et ça m'a vraiment donné envie de travailler avec les animaux. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et les demandes affluent. Donc j'avais postulé à pas mal d'endroits et 6 mois après, j'ai eu un retour justement de Droit de Vivre. Une soigneuse partait à la retraite et moi, du coup, j'ai pu prendre sa place.
Du coup, tu n'es pas du tout originaire de là?
Alors moi, j'habite de base sur Fontaine. Mais oui, non, je suis partie loin pour faire des stages parce que, pareil, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup de places. Donc voilà, on se bat dès les premiers stages pour avoir une place. Donc voilà, j'ai fait 6 mois au début en CDD et puis après j'ai accepté le CDI.
Okay.
Et le fait d'avoir travaillé du coup en aide-soignante m'a aidée aussi parce que j'étais calée sur les protocoles sanitaires, hygiène. Donc voilà, ça a aidé. Mais non, ce qui est bien ici, c'est que c'est un cadre où les chats sont en liberté. Alors, c'est sûr que c'est des chats qui sont beaucoup plus craintifs et pas forcément manipulables.
Allez,
pour certains.
Fouquette.
Donc, c'est vraiment à nous de nous mettre à leur... De respecter, de s'adapter à leur caractère et les laisser venir. Et pas nous à imposer, en fait, nos envies. Mais c'est génial.
celui-là, il était beau.
Celui-là, on est bien.
Contente.
Ça, c'est mignonnement pas content parce que c'est une madame.
Oui,
c'est madame Ronchon.
Madame Ronchon.
Ah oui, c'est madame Ronchon.
Ça va, mon amour. Toi, c'est les ronrons qu'il faudrait, mais pour ça, faut caresser un petit moment.
Ouais, on va faire
un papy, petit. Et papy, lui, il miaule, il réclame. Pablo!
Il est un peu dur d'oreille quand même. Hein. Ah, ça y est. Oula, réaction.
Coucou.
Voilà. Allez-y, mettez-vous.
Il a quel âge?
Il a 16. 16 ans, 16 ans.
Oui, c'est ça.
C'est quand même plus vieux. Mais... Ah, Chachou, il ronronne pas mal.
Oui, aussi.
Ça, on l'a passé.
Ouais, des friandises.
Des beaux ronronnements.
Savannah qui m'a parlé.
Savannah.
Ah. Et voilà. Là donc le tour est fait.
Et donc, vous êtes soigneuse ici. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter vos rôles et votre quotidien en tant que soigneuse dans ce refuge ?
Alors, notre quotidien, c'est assez répétitif. On fait toujours la même chose, c'est-à-dire que le matin, c'est vraiment concentré sur l'entretien des locaux, le soin des animaux, le nourrissage, exactement, les rendez-vous vétérinaires. Et les après-midi, c'est un peu plus tranquille, c'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment des visiteurs, des adoptants, des personnes, par exemple, qui vont nous déposer des dons, etc., voilà, qui ont des questions. On est plus au service du public l'après-midi, voilà.
Donc au service des chats le matin et l'après-midi en contact avec les personnes. Et donc à titre indicatif, en ce moment, vous avez 110 chats. Au refuge.
C'est ça.
Et je pense pour présenter le refuge, c'est peut-être aussi important de dire que c'est un refuge en semi-liberté. Donc est-ce
Exactement.
Que vous pouvez peut-être nous présenter ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière ce terme?
Alors, nos enclos, en fait, sont constitués du coup d'un intérieur ou plusieurs avec des extérieurs. Donc les portes d'entrée, en fait, ont des chatières. Et donc les chats font des va-et-vient à leur guise. Sur les 2000 m² de terrain qu'on a, on est à 5 enclos. Et donc, en fait, les chats qui sont dans les enclos ne peuvent pas aller dans d'autres enclos. Par contre, ils vont voilà, à leur guise dans leur intérieur, leur extérieur. Il y a de la nourriture et de l'eau à profusion en extérieur et en intérieur, justement. Et puis, voilà, ils font comme ils veulent.
Ouais. Et pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans les pièces... parce qu'on a des chats sauvages, et ça, il faut le dire, dans les 110 chats, on a donc des chats sociables qui sont à l'adoption, mais on a aussi des chats sauvages qui ne seront jamais adoptés. Et eux, effectivement, on a des cabanes aussi en extérieur où ils peuvent se mettre à l'abri s'ils le souhaitent. Voilà.
Oui, j'allais dire, en parlant de chats sauvages, quels sont les profils un peu des chats que vous avez dans votre refuge ?
Alors, on sauve exclusivement les chats sauvages qui sont en danger parce qu'on ne peut pas sauver tous les chats parce qu'en fait, on ne peut pas pousser nos murs et au bout d'un moment, on arrive à un effectif d'animaux qu'on doit soigner. Donc, c'est une prise en charge financière importante et ces chats-là, on les garde jusqu'à la fin de leur jour. Donc, on ne les fera jamais adopter. Donc, on n'a pas forcément de rentrée d'argent. Donc, on sauve que ceux qui sont en danger. Donc, c'est soit des chats qui se retrouvent sur des sites, par exemple, des bâtiments qui vont être détruits. Donc, ils n'auront plus d'endroit où vivre. Ça peut être aussi des chats qui se retrouvent dans des quartiers qui ne sont pas très sécurisés, on va dire. Et voilà, ils se font embêter, maltraiter. Voilà, il y a des gens, malheureusement, qui empoisonnent, qui maltraitent les animaux dans les rues. Donc, on sauve ces chats-là en priorité, effectivement. Quand c'est un chat qui est errant et qui est nourri par la petite mamie du coin, eh ben, on les laisse vivre leur vie. Ils ne sont pas malheureux et ils ont besoin de leur repère aussi, ces animaux-là. Voilà.
Oui, donc plutôt les animaux en danger, c'est ça. Et donc, vous pouvez pas juste vous occuper de tout ça à deux. Donc, vous êtes... Est-ce qu'il y a d'autres salariés à part vous ? Ou...
Oui. Alors, on est deux salariés et il y a également une directrice. Voilà. Okay. Du refuge. Et après, on a...
Oui, les bénévoles, justement. Les bénévoles. Je voulais demander combien de bénévoles, à peu près, vous avez.
On a à peu près 8 bénévoles, on va dire, qui viennent très régulièrement, qui nous aident, que ce soit pour l'entretien, que ce soit pour les événements, que ce soit pour nos portes ouvertes. On a aussi des bénévoles qui nous aident pour les collectes, justement, les week-ends. Et puis, comme je disais, on peut aussi avoir besoin de bénévoles pour de la sociabilisation l'après-midi avec des chats. Pareil, s'il y a des personnes qui sont manuelles et qui veulent créer des choses en fait de leurs mains pour qu'on puisse les revendre au profit du refuge. Voilà, c'est vraiment porte ouverte à tout. On a aussi besoin pour l'espace vert, faire l'entretien au niveau de nos jardins parce que ça met énormément de temps. Donc voilà, on est preneuse vraiment de toutes les petites mains qui voudraient nous aider.
Et même pour les réseaux sociaux, on l'a pas dit.
Très important, oui.
Parce que pour le moment, vous êtes juste deux, si j'ai compris, mais vous avez un rythme assez soutenu.
Ouais, on a un rythme soutenu. On a aussi une ancienne collègue à nous qui gère le Facebook. Et puis là, du coup, on a créé TikTok grâce à une autre bénévole. Donc voilà, ça prend du temps aussi. Donc si quelqu'un est OK pour le reprendre... pour nous aider, on est OK.
Et justement, enfin, sur le type de refuge, moi, je me demandais, quand je l'ai vu, pourquoi avoir un refuge uniquement dédié aux chats et pas l'ouvrir aussi aux chiens ou à d'autres animaux. Après, ça, je pense, c'est parce que c'est dans la genèse un peu de ce refuge et il y a toujours eu des chats, donc je pense que vous avez déjà assez de boulot avec les chats.
Mais... C'est exactement ça. On a quand même 110 pensionnaires. Sachant que justement, on a quand même un grand espace, on peut en accueillir quand même beaucoup de chats. Et malheureusement, des chiens en plus, ce serait pas gérable. Et en plus de ça, on n'a pas du tout le refuge adapté. C'est et il y a des conditions légales aussi pour accueillir des chiens. C'est-à-dire que là, on a un voisinage qui est quand même assez proche. Et les chiens, c'est bruyant, ouais. Mine de rien. Et on ne pourrait pas accueillir de chiens, en fait. Ce serait pas possible. Même si on pouvait au niveau de la structure... ce serait pas possible au niveau du voisinage, voilà.
Et puis après, vous avez aussi des profils de chats qui sont pas forcément... Je pense que ça les changerait aussi d'être au contact de chiens ou rien que de les sentir. Donc, étant donné qu'ils sont en semi-liberté...
Ça... Oui, on en a qui adorent les chiens. Black est un exemple très concret. Il adore les chiens, mais peu, parce qu'ils sont pas habitués aussi, hein. C'est aussi ça.
Oui, c'est ça. Et justement, sur ça, je voulais vous demander un peu ce qui vous différencie d'autres refuges plus classiques comme la SPA ou des choses comme ça.
Alors, ce que je peux dire, c'est que ce qui nous différencie, c'est que déjà, effectivement, on peut accueillir des chats sauvages que les autres structures ne peuvent pas. On accueille également des chats avec certains comportements un petit peu compliqués, caractères difficiles qui ne seront pas forcément... adoptables derrière, donc des problèmes d'agressivité, ce genre de choses. Donc on peut prendre en charge ce type de chat. Après, on est aussi un peu comme la SPA, c'est-à-dire qu'on recueille aussi des chats qui sont abandonnés, qui sont maltraités, qui sont vieux, malades. Enfin voilà, on accueille vraiment tout type de chat.
Ok. Et donc, justement, est-ce que vous êtes parfois amené à collaborer conjointement avec d'autres associations, ou enfin, comment vous collaborez aussi avec la fourrière, qui, je pense, parfois vous...
Oui, ça nous arrive que des... Pardon, j'ai perdu le fil. Ça nous arrive qu'il y ait des associations qui nous demandent justement de récupérer des animaux parce qu'ils ne peuvent pas les accueillir. On a le cas avec la fourrière, là, par exemple, récemment, qui nous a demandé de récupérer un petit papy. Qui a 16 ans et c'est un chat qui est plutôt sociable, mais au niveau du caractère, il reste quand même, disons qu'on va pas pouvoir le porter. C'est un chat qui peut se faire caresser, mais voilà, il faut quand même y aller à son rythme. Et donc, ce chat, apparemment, les autres assos ne pouvaient pas le prendre, donc on a décidé de l'accueillir ici. Et puis, on va essayer de le faire adopter prochainement.
Après, il y a aussi, en période estivale, par exemple, l'été, les chatons. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont trouver dans la rue des chatons, etc. Et nous, on n'a pas la structure adaptée pour en accueillir. Effectivement, là, souvent, on contacte les autres associations qu'on connaît pour que eux ils récupèrent les chatons, mais après c'est vraiment c'est des échanges. Par moment, ils vont pas avoir la place pour récupérer un chat adulte et ils vont nous demander, et inversement, enfin voilà, il y a de l'entraide en tout cas, il y a de l'entraide.
Justement, enfin, c'est ce que tu montrais juste avant en le disant, c'est que avant d'adopter, en fait, il faut vraiment bien connaître le chat et ses spécificités. Et je voulais vous demander, pour vous, c'est quoi le plus gros cliché, stéréotype que les gens se font sur le chat et qui se disent, enfin, je sais pas, il est tout mignon, il est tout câlin, il va rester devant la télé, enfin.
Chapeluche.
Exactement, ouais. Comme dit Mélanie, y a des gens qui pensent que le chat, c'est une peluche et qu'ils vont en faire ce qu'ils en veulent, alors que bah, non, le chat, ils ont tous leur caractère, ils ont tous leurs spécificités. Y a des moments où ils ne vont pas avoir envie d'être câlinés, ils vont avoir envie d'être tranquilles. En fait, c'est comme... Il faut voir que c'est comme un humain, c'est-à-dire qu'il a ses émotions, il a ses ressentis, il a envie d'être tranquille, il a envie qu'on s'occupe de lui. Enfin, voilà, il faut le comprendre et s'adapter en fonction de lui. Après, il y a aussi malheureusement un gros stéréotype qui continue aussi, c'est sur les chats noirs. Ça, c'est bien triste parce que voilà, il y a certaines personnes qui pensent que ça porte malheur. Pas du tout. Enfin, les chats noirs en plus sont hyper affectueux. C'est pas du tout. Je trouve ça triste que ça perdure encore en 2025. Mmh.
Et en plus, on a un petit chat noir à côté de nous qui est tout mignon depuis avant.
Adorable, n'est-ce
qui monte
pas
sur la table, qui nous fait plein de câlins. Et, et il nous regarde. Il sait qu'on parle de lui. Et donc, justement, chez vous, comment ça se passe, ce processus d'adoption? Parce qu'en fait, vous pouvez peut-être parler du avant l'adoption, mais surtout aussi du après, parce que de ce que j'ai compris, il y a vraiment un suivi.
Oui.
Et s'il y a des problématiques avec le chat, la personne qui adopte ne se retrouve pas toute seule. Donc voilà, est-ce que vous pouvez
nous expliquer? Nous déjà, avant que le chat soit adopté, on demande 2 à 3 visites. En fait, la première visite, ça va être pour rencontrer le chat, voir déjà s'il y a une alchimie, si ça passe bien entre les deux. Et puis, voilà, si aussi au niveau des critères, si ça correspond. C'est ça. Nous, on a beaucoup de chats, du coup, qui sont habitués forcément à la semi-liberté. Donc, c'est souvent en maison ou alors en jardin, vraiment en mode appartement avec une grande terrasse. Voilà, le premier rendez-vous se passe. Si la personne est OK et que ça se passe très bien, qu'on valide, on va lui faire signer un certificat en fait, d'engagement et il aura 7 jours pour se rétracter. Et si au bout des 7 jours, la personne est toujours en demande pour l'adoption, on va pouvoir emmener le chat au vétérinaire, lui faire un certificat d'engagement et puis ensuite procéder à l'adoption. Ça arrive des fois que les personnes justement aient besoin d'un peu plus de temps de réflexion, de refaire des visites. Nous, on est OK. On n'est vraiment pas pressé par le temps. Nous, ce qu'on veut, c'est que la personne ait vraiment bien réfléchi à ce que c'est d'adopter un chat. Nous, dans notre refuge, justement, on a des chats qui ont quand même des parcours des fois plus compliqués que d'autres. Donc, on veut vraiment qu'ils se rendent compte de ce que c'est d'adopter un chat chez nous. Une fois qu'il est adopté, on a vraiment un suivi derrière. Donc, on les appelle généralement au bout de 24-48 heures pour savoir comment ça s'est passé. On demande beaucoup de photos et de petits messages pour savoir comment ils vont, comment ça se passe. Vraiment, on essaie de les mettre à l'aise un maximum pour qu'il n'ait pas de honte ou de peur de nous appeler s'il y a un problème, parce qu'on est vraiment là justement pour les aiguiller, les conseiller s'il y a besoin. Donc voilà, c'est vraiment notre but de mettre les personnes à l'aise en toutes circonstances et de les accompagner au mieux.
Oui, et donc d'où l'importance d'être aussi sélectif, vous, de votre part, pour sélectionner les adoptants. Je voulais justement vous demander pourquoi être sélectif, peut-être plus que d'autres refuges. Bon, je pensais déjà dû peut-être parfois au profil de vos chats qui peuvent être sauvages ou voilà. Mais il me semble qu'il y avait l'histoire d'Isis. Je pense que ça vous parle.
Voilà. Typiquement.
C'est ce qu'elle symbolise. Exactement. Donc je pense que c'était l'exemple parfait.
C'est exactement ça. On est très sélectif avec nos chats parce qu'en fait, ils vivent déjà un abandon où ils se retrouvent dans un refuge entouré de plein d'autres chats. Alors même si notre refuge a l'air comme ça d'être un havre de paix où les chats sont bien, et effectivement ils sont bien, mais ils sont mieux dans une famille où ils sont le seul chat de la famille à avoir toute l'attention, etc. Et donc on veut éviter qu'ils reviennent ici. Donc le but, c'est pas qu'ils se refassent abandonner. Et là, typiquement, Isis, c'est une petite minette qui a été adoptée quand elle était jeune au refuge par une dame. Et la dame avait déjà un certain âge. Et la fille de cette dame avait promis de récupérer Isis si jamais il arrivait quoi que ce soit à sa maman. Et malheureusement, sa maman donc est partie en EHPAD ou est décédée, je ne sais plus. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas voulu récupérer le chat et pourtant, elle l'avait promis à sa mère. Donc, la chatte est revenue ici. Donc, elle est de nouveau avec nous au refuge et maintenant, elle a
13 ans.
Donc, C'est triste pour elle parce qu'en plus elle le vit mal, elle a déjà perdu son humaine, ce qui est déjà un choc émotionnel, et se retrouver ici en compagnie des autres chats dans un environnement comme celui-là, ben c'est pas l'idéal, et souvent ça crée c'est du stress, ça crée beaucoup de problèmes de santé par la suite, le système immunitaire est un peu plus affaibli, il y a vraiment un choc. Là,
et
après
malgré,
ça.
Malgré le fait qu'elle ait déjà été là auparavant.
Tout à fait.
Plus... Parce qu'on pourrait se dire, elle connaît déjà l'endroit, mais non, en fait, c'est
non,
la stabilité.
À chaque fois, c'est vraiment un gros choc pour eux, que ce soit la première ou la seconde fois. Les chats, quand ils arrivent ici, il y a un mélange de toutes les odeurs, de stress. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent encore une fois en box. Et vraiment, bah, justement, à cause du stress, le système immunitaire s'affaiblit. Et là, c'est porte ouverte à beaucoup de maladies. Donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment aussi de sensibiliser à ça, que ce soit pendant nos événements ou même justement quand on fait des visites pour les adoptions. Parce qu'on veut vraiment que les personnes réfléchissent à s'ils le prennent, ils s'engagent pour toute la vie du chat et qu'ils réfléchissent vraiment à est-ce qu'on est OK sur cette caractéristique-là de ce chat ou est-ce que ça peut nous poser problème. Parce que ça ne sera pas quand le chat est à la maison qu'il faudra y réfléchir. Donc voilà.
C'est sûr. Et justement aussi dans l'adoption, bah souvent c'est plus compliqué de trouver des familles à des chats âgés ou malades. Donc pour vous, pourquoi ils sont souvent laissés de côté et puis finalement, pourquoi c'est peut-être parfois même mieux de les adopter eux, parce que enfin quel lien on peut aussi tisser particulièrement dans ce genre d'adoption?
Alors souvent justement c'est très fort quand ils sont adoptés avec leurs adoptants, il y a vraiment un lien très très fort qui se crée, c'est assez particulier mais les gens en fait sont réfractaires tout simplement parce que bah, à un certain âge il arrive des soucis de santé et pas que, il peut y avoir des problèmes d'incontinence ou autre, enfin... Voilà, il y a des choses, il y a plus de contraintes, effectivement, plus de surveillance à avoir. C'est pas pareil qu'un jeune chat. Par contre, c'est un chat, on connaît son caractère. Souvent, ils sont plus calmes, ils font moins de bêtises en général aussi. Mais je sais que tous les gens qui ont adopté des vieux chats chez nous, alors peut-être que effectivement, ils n'ont pas pu en profiter très longtemps. Mais il y a vraiment des liens forts qui se créent. Je pense notamment à une minette Shana qui avait été adoptée, qui a été abandonnée parce que ses propriétaires voulaient faire le tour du monde et du coup ils étaient embêtés. Donc ils l'ont abandonnée alors qu'elle était vieille. Et elle a été adoptée par une jeune femme en plus. C'est souvent les jeunes qui adoptent des vieux chats. Donc je trouve que la mentalité change au fur et à mesure et ça c'est bien. Et il y a un lien très très fort qui s'est créé entre elles et malheureusement Shana est décédée depuis mais voilà, il y a eu vraiment quelque chose, elles ont été très fusionnelles donc c'était beau, voilà.
Et je pense aussi à l'histoire que tu m'as racontée avant, je crois, Mélanie, avec... alors, c'est qui, c'est ça? Non, je sais plus
Chachou.
Le nom. Chachou. Avec Savannah. Qui a l'œil, qui a une maladie.
Oui, c'est Chachou.
Et c'est ça. Enfin, la peut-être potentielle adoptante a la même maladie que le chat. Et en fait, ça, c'est...
Oui.
Ça crée un lien encore plus fort. Enfin...
C'est ça. Et puis, on a aussi une bénévole, je pense, qui justement, avait adopté à l'époque une minette Mamita. Qui était une vieille minette justement et elle disait qu'elle aime justement accueillir des chats qui sont en fin de vie ou vraiment des très vieux chats parce qu'il y a un lien qui se crée qui est complètement différent avec un jeune chat. En fait les vieux chats ont déjà leur habitude, ils ont leur caractère et c'est vraiment à elle de s'adapter à ce chat. Et elle me disait, quand j'arrive à créer en fait un lien avec ce chat, c'est tellement une victoire pour moi parce que c'est que vraiment j'ai réussi à m'adapter à son rythme et qu'il me fait confiance. Et elle me disait que c'était vraiment particulier. Et puis c'est le fait aussi de sauver une vie, de sauver un chat qui n'aurait pas forcément eu la chance d'être adopté parce qu'il ne rentre pas forcément dans les critères justement de tout le monde. Beaucoup viennent dans notre refuge parce qu'ils veulent adopter, mais ils sont une image d'un chat qui est tout autre que ce qu'on peut avoir, nous, dans notre refuge. Donc, c'est vrai que il faut être conscient quand on vient adopter dans notre refuge que, ben voilà, on a des chats qui ont des histoires des fois pas faciles, qui ont déjà un caractère, que ce caractère, ben, il est là parce que ils ont vécu des choses des fois pas faciles. Et donc, il faut leur laisser du temps pour avoir ce lien de confiance.
Ouais, et finalement, c'est aussi un peu... Enfin, ce que tu dis là, c'est que... Enfin, de ce que j'ai compris dans votre refuge, c'est ce qu'on m'a dit avant l'émission, c'est qu'il y avait une augmentation parfois des demandes d'adoption un peu catalogue. Ah bah, j'aimerais un chat câlin avec ce caractère, ça, comme ça, oui. Les yeux bleus, je sais pas. Enfin,
oui.
Donc, pour vous, qu'est-ce qui vous choque le plus ou vous attriste dans ce type de demande, en fait ?
Oh bah la demande, je crois, la plus choquante que j'ai entendue, c'était... Alors, c'était pas moi qui avais reçu l'appel, mais c'était une dame qui demandait un chat à poil gris pour que ça ressorte bien sur son carrelage.
Oui, c'était par rapport à la déco.
Voilà. Le chat aille bien avec la déco de la pièce. Donc, oui, bah... Quoi répondre à ça ? C'est généralement on essaie de couper court. Hein. On essaie de couper court parce qu'on veut surtout pas une mentalité comme ça pour des adoptants potentiels pour nos chats. Heureusement, on n'entame pas non plus des masses, des demandes comme ça. On a généralement des personnes qui sont quand même conscientes et qui sont un petit peu informées sur notre refuge. Mais oui, ça arrive des fois qu'on ait des mentalités comme ça, avec je veux tel critère de chat, je veux... Alors après, il y a des personnes qui sont vraiment formidables et qui ont une préférence, par exemple, pour des chats à poils longs que des chats à poils courts. On l'entend complètement, on ne va pas bannir et dire non à n'importe quelle demande. Mais voilà, il y a des fois où, oui, effectivement, pour que le chat aille bien avec la déco, là, on trouve ça un petit peu absurde quand même.
Savoir faire l'équilibre.
Voilà, c'est ça.
Entre caractère et physique.
On comprend qu'il puisse avoir un peu des préférences, mais après, il ne faut peut-être pas non plus pousser trop loin.
C'est sûr, oui. Donc, sensibiliser plutôt, bah oui, sur le respect de l'animal en tant qu'être vivant et pas c'est comme ça. Un objet
Exactement,
déco.
C'est pas un objet. C'est exactement ça.
Tout à fait.
Et donc, bah, justement, sur ce point précis, vous, comment vous expliquez cette évolution sur la perception du chat, enfin, je sais pas si avant c'était déjà comme ça il y a quelques années quand quelqu'un voulait adopter un chat ou si est-ce que là il y a une recrudescence un peu, enfin une augmentation de ces demandes précises.
Non, je dirais que ça évolue plutôt bien. Alors à une certaine époque, mais il y a très très longtemps, enfin les gens prenaient des chats un peu pour les souris dehors, ce genre de choses. On pensait ça. Ça aussi, c'était comment dire, une idée reçue de dire que c'est toujours d'ailleurs une idée reçue de dire que le chat est complètement indépendant, qu'il se débrouille tout seul dans la nature. C'est complètement faux. Hein. Le chat, il est tout seul dans la nature. Il va chasser, certes, il va réussir à peu près à se nourrir, mais il va se bagarrer. Il va attraper plein de maladies, plein de. Donc non, fort heureusement que ça a évolué. Les gens maintenant, ils ont compris que c'était un animal de compagnie, qui avait des émotions, des sentiments, que voilà, c'est vraiment des éponges à émotions. Donc non, les gens ont bien compris, je trouve. Alors ça, c'est toujours il y a toujours des personnes comme ça, mais il y en aura toujours, je pense. Mais ça évolue bien parce que vraiment, il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent adopter des chats, justement, qui ont des histoires, qui ont un vécu ou qui veulent d'ailleurs des chats adultes et pas forcément des chatons. Enfin, ça évolue bien, ça évolue bien.
Oui, ça évolue bien.
Trop lentement, cependant, mais ça évolue bien.
Il y a quand même un peu une perspective d'évolution. Et oui, bah, sur l'image un peu fantasmée des chats, je pense que oui, c'est ça, tu le disais, on les associe souvent à la liberté, à l'indépendance, tout ça. Et justement, à ce sujet, il y a une musique qui s'appelle Everybody Wants to be a Cat. Donc, tout le monde veut être un chat, parce que je pense que c'est un peu bah, pour cette image-là. Donc, je voulais vous demander justement à ce titre de musique, vous, qu'est-ce que vous répondrez ? Et je poserais même peut-être plutôt la question sous l'affirmation inverse, pourquoi personne n'aimerait être un chat parfois ?
Bah, je pense que c'est le côté un peu paresseux. Le chat, il dort beaucoup quand même. Il y a le côté un peu insolent aussi. Le chat, il fait un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est plus difficile de lui mettre des règles comme à un chien. Donc en fait, c'est oui, c'est le côté, c'est ça, ce côté de liberté, je dirais. C'est le côté, le chat, moi, je fais ce que je veux et je peux paresser pendant des heures, on me dira rien. Enfin voilà, il fait sa petite vie, voilà. Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. But with a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who tried to sing. Still, a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick long-haired dick and stuff like that? When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. Oh, a rinky-tinky-dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky-tinky-tinky.
Yes, everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Everybody digs a swinging cat.
Et pour vous, selon vous, quelle est la principale cause d'abandon des chats aujourd'hui ?
Oh, la question vaste.
Vous pouvez en citer plusieurs.
Alors, dans notre refuge ?
Non, mais globalement, c'est très simple. Il y a souvent des choses qui reviennent. Les gens sont souvent allergiques. Alors, je veux bien qu'il y ait des gens réellement allergiques. Mais enfin, en pourcentage, je pense que voilà. Il y a beaucoup d'allergies. Les causes d'abandon, ça peut être aussi quand les chats ont des problèmes de malpropreté, des problèmes de comportement, d'agressivité. Quand le chat, il commence à être vieux, ça, c'est assez récurrent aussi. La grossesse, effectivement. Parce que, en fait, les gens ont peur. Enfin, les femmes enceintes ont peur, mais je veux dire, à partir du moment où elles ne touchent pas la litière, il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque. Elles peuvent très bien garder le chat, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est un peu les excuses, les enfants. Ah bah j'ai des enfants, je ne peux plus m'occuper du chat. Bah non en fait, puisque si vous avez des enfants, si jamais il y a un problème avec un des enfants, vous n'allez pas dire bah je vais abandonner l'enfant. Mais c'est pareil pour l'animal en fait. Pour nous, il n'y a pas de raison vraiment valable, sauf il y a vraiment des gens qui du jour au lendemain sont dans une situation précaire ou vraiment sont vraiment allergiques, ont un gros problème d'allergie. On sait entendre quand il y a une vraie raison derrière et que malheureusement les gens ont essayé de trouver des solutions et n'ont pas trouvé, n'ont pas réussi à faire en sorte que l'animal soit bien avec eux. Ça arrive. Mais il y a des excuses malheureusement qu'on a du mal à accepter parce qu'on sait très bien que c'est juste pour se débarrasser du chat.
Donc ça. Des périodes aussi.
Des périodes.
Oui.
Oui, parler des
périodes
en vacances.
De vacances, de l'été par exemple. Oui, on a beaucoup de personnes justement qui deviennent allergiques.
Oui, et c'est ce qu'on disait avant justement, c'est que pour le chat en fait c'est 20 fois plus stressant de venir en refuge. Enfin, c'est quelque chose c'est une expérience. Ils peuvent aussi se révéler avoir des caractères différents, peut-être, en arrivant dans un refuge.
Oui. On parlait justement tout à l'heure de Savannah, où, comme je disais, quand elle est arrivée ici, elle était vraiment intouchable et très agressive. Et une fois mise dehors,
Parce qu'il me semble qu'elle n'avait pas accès justement à dehors quand elle était avec son autre famille. Voilà. Et donc, en fait, une fois qu'elle a été dehors, elle s'est quand même vachement détendue. Et ensuite, on a pu la manipuler, la caresser. Certes, c'est une grande râleuse, mais on peut la caresser.
Et donc, sur le côté financier plutôt de votre refuge, vous êtes une association. Comment vous êtes financée? C'est uniquement par les dons? Ou je pense qu'il y a aussi des subventions.
Il y a des subventions. Alors effectivement, c'est majoritairement, heureusement, la générosité des gens qui nous fait vivre. Effectivement, alors on a quelques subventions. Donc il y a la métro, 30 millions d'amis. Il y a aussi la fondation Brigitte Bardot, qui nous donne accès des fois à des soins ou des croquettes. Enfin voilà. La ville de Vif. Et voilà.
c'est déjà pas mal.
C'est pas mal, mais malheureusement, ouais, c'est pas suffisant. Si on avait que ces subventions et qu'on n'avait pas justement les gens qui étaient là derrière, malheureusement, on ne survivrait pas. Parce qu'il faut se rendre compte des frais de structure. Enfin, ça coûte très très cher un refuge. Alors certes, les lieux nous appartiennent, donc on n'a pas de loyer pour le coup, nous, à la différence peut-être d'autres associations. Par contre, il y a l'eau, l'électricité, les salaires, parce qu'on est salariés.
Les frais vétérinaires.
Les frais vétérinaires. L'alimentation, la litière, c'est énorme vraiment au niveau dépenses, voilà.
Et donc justement, quels sont les plus gros besoins du refuge actuellement? Sur les dons, est-ce que c'est de l'alimentation qu'il vous faut principalement?
Alors en général, c'est vrai qu'on demande beaucoup d'alimentation humide parce qu'on fait un nourrissage de pâté tous les matins pour tous nos pensionnaires. Donc il y a 110 gamelles distribuées chaque matin et on fait aussi un nourrissage de temps en temps le soir aussi. Donc effectivement, la pâté, on en a toujours besoin, peu importe la marque, enfin vraiment, on en a toujours besoin. Donc ça, c'est toujours bienvenu. Après, la litière, pareil, on en a toujours besoin. Après, ça peut être aussi des dons matériels pour le quotidien, pour nous, c'est-à-dire des sacs poubelles, des produits d'entretien, des gants, des choses dont on a l'utilité aussi au quotidien. Après, je dirais que effectivement, ce sont les dons financiers qui nous font vivre. Donc, c'est ça le plus important. Il y a aussi, d'ailleurs, la possibilité, les gens peuvent faire des assurances vie, etc. Nous, on est en capacité de prendre des legs. Donc, ça, c'est aussi extrêmement important. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas de famille et veulent léguer leur argent à leur décès à une association, potentiellement à la nôtre, ils peuvent. Voilà.
Tout est expliqué sur notre site, et puis il suffit juste de nous envoyer un mail et on peut expliquer la procédure.
Et puis si certains n'ont pas les moyens, ils peuvent simplement devenir bénévoles aussi.
Exactement, il y a plusieurs façons de nous aider. Hein.
Complètement.
Et donc vous, je voulais quand même vous demander, parce que vous avez 110 chats, vous les connaissez tous leurs noms. Et donc, je voulais vous demander quel chat vous a le plus marqué dans ce refuge. Alors, ça doit être dur. Ou bien une histoire émouvante ou marquante à nous raconter. Il y en a beaucoup. Si vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez en raconter plusieurs.
Alors, en chat marquant du refuge, Black, bien évidemment. C'est un chat qui est arrivé à ses 7 mois et qui maintenant a 9 ans. Ce Zouzou, c'est un chat qui, moi, que je caractériserais comme un petit dépendant affectif. Donc, il adore être au contact, il adore être porté, être dans les bras. Dès qu'on a des enfants qui viennent visiter, il adore être au contact. Par contre, c'est vrai que quand on s'occupe pas de lui, il y a des fois où on va entendre une alarme sonner. Voilà, un grand cri de Black pour nous dire « Oh, je suis là, occupez-vous de moi ». C'est un chat qui est adorable et c'est vrai que quand on le voit pas, on est toujours un peu là à le chercher. Il est très caractéristique et puis surtout, beaucoup de monde qui vient visiter le refuge se rappelle de lui. Moi, j'en ai beaucoup qui, quand on fait des portes ouvertes ici, qui me demandent alors il est où Black ? Parce que c'est un chat vraiment qu'on garde en mémoire. Après, en anecdote.
Et il marche sur la table, il caresse le micro.
C'est... Il aime être le centre d'attention.
Ça se sent.
Après, il y a tellement. Oui, alors attendez, je réfléchis parce qu'il y a plein d'anecdotes. Il y a eu aussi des super adoptions. Donc, je peux en citer une, par exemple. ça, typiquement, il a eu énormément de chance d'être tombé sur ces adoptants-là. Un chat, alors qu'il s'appelait... Maintenant, il s'appelle Kendall. Le prénom a changé. Nous, on l'avait appelé... j'ai oublié. Bref. Et du coup, c'est un chat qui avait un souci, une malformation au niveau de la queue qui a fait que, en fait, il avait une incontinence. Donc, ce chat était incontinent. Très peu de chances d'être adopté, vraiment. Et on est tombé sur un couple formidable qui adore sauver les animaux justement avec des problématiques, avec des handicaps. Exactement. Voilà, il s'appelait Topaz. Voilà, merci. Et donc, il vit sa meilleure vie, quoi. Il est entouré d'autres copains chats, de chiens, et c'est formidable. Et ils l'ont pris avec cet handicap, avec ce côté incontinent qui est pas facile au quotidien. Mais il a eu cette chance de rencontrer des gens formidables. Donc merci, heureusement qu'il y a des adoptants formidables comme ça qui prennent ce type de chat. On en a plein des anecdotes comme ça, mais c'est difficile hein, de les compter. Il y a Filou aussi. Oui, Filou, effectivement, un de nos chats qui était là, qui est arrivé là parce que pareil, sa maîtresse est rentrée en EHPAD. Sa famille ne pouvait pas le récupérer. C'est un chat qui avait besoin aussi d'un accès extérieur et du coup il est resté des années et des années au refuge sans que personne ne soit vraiment intéressé, c'est-à-dire qu'on a eu des demandes pour lui et quand les gens venaient le rencontrer, je ne sais pas pourquoi non, ça matchait pas, je ne sais pas pour quelle raison. Oui, je pense physiquement
pas le plus beau chat, mais c'était un beau chat noir et blanc. Il avait des petits soucis de bouche, donc ça bavouillait un peu. Mais oui, c'était un grand chat qui était un peu... oui.
En fait, il avait...
la prestance, mais c'est vrai que oui, c'était pas un... On pouvait pas dire que ce serait le chat le plus mignon au premier abord, mais...
En fait, très indépendant au départ. Oui. Quand les gens venaient, il n'était pas forcément en mode « Oh, je vais faire
très
des
emballé.
Câlins ». Oui, pas très emballé. Et je pense que ça freinait un peu les gens. Et finalement, après plusieurs années, parce qu'il est resté, je ne sais plus, très très longtemps au refuge, plusieurs années, il est tombé sur une personne formidable, pareil, une dame qui veut sauver... qui veut sauver tous les chats qu'elle peut sauver. Donc, tous ceux qui ont des soucis de santé ou des handicaps. Effectivement, lui, il commençait à avoir beaucoup de soucis de santé au fur et à mesure. Et donc, notamment les soucis de bouche, comme elle expliquait, et qui persistent, en fait, qui sont chroniques. Et depuis qu'il est avec Sylvaine, hein, elle se reconnaîtra, il vit sa meilleure vie, quoi.
Il
va beaucoup mieux.
Il va beaucoup mieux.
Donc, de superbes perspectives pour tous ces petits chats. Et vous, quels sont vos projets ou vos rêves pour l'avenir du refuge, si vous aviez budget illimité?
Justement, gagner au loto et refaire ce refuge de fond en comble.
Ça, c'est vrai. Si on avait les moyens, c'est vrai qu'on casserait peut-être tout pour refaire quelque chose de neuf. Parce que c'est une vieille maison. Hein. C'est une maison, je pense, des années 50. Donc, elle est un peu dans son jus. Et effectivement, y a toujours un petit truc à réparer quelque part. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, tout reconstruire, agrandir, peut-être acheter un terrain supplémentaire, avoir plus de personnel pour accueillir et sauver un maximum de chats, en fait. Ce serait formidable.
Recréer d'autres enclos avec des spécificités à la limite et puis agrandir notre infirmerie, ça, ce serait génial. Ce serait génial.
C'est vrai qu'on a un parc pour nos chats porteurs du sida du chat et effectivement, il y a plein d'autres pathologies et ce serait bien d'avoir d'autres parcs avec ces chats-là, justement, qu'on ne peut pas accueillir, notamment les chats qui sont porteurs de leucose, par exemple, qu'on ne peut pas accueillir. Voilà. Plein de choses. Hein.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose ou peut-être dire vos réseaux sociaux
j'allais dire, n'hésitez pas justement à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a Facebook, donc c'est Refuge pour chat droit de vivre. On a notre compte TikTok qui est Refuge DDV38. Notre Instagram, Refuge droit de vivre. Et je crois que je n'oublie rien.
Alors, s'il y a juste une chose, c'est qu'on a nos portes ouvertes au mois de juin, donc le 28-29 juin, le samedi dimanche. N'hésitez pas à venir visiter si vous ne connaissez pas le refuge. Voilà, en général, les gens sont charmés. N'hésitez pas à venir nous découvrir, ça n'engage à rien. Et voilà, vous allez passer un bon moment en notre compagnie.
Et quand j'ai entendu le nom du refuge, je me suis dit « mince, tu as oublié une question ». Pourquoi droit de vivre comme nom de refuge ?
Eh bien parce que justement la personne qui a fondé l'association accueillait vraiment tout type de chats, c'est-à-dire même les chats sauvages, parce que malheureusement les autres associations ne peuvent pas les récupérer. Et quand ils sont récupérés en fourrière, ces chats-là, si personne ne les récupère, malheureusement c'est l'euthanasie. Donc droit de vivre, c'est aussi pour ça. C'est que eux, c'est pas parce qu'ils sont sauvages et qu'ils n'acceptent pas le contact de l'homme qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur tranquillité, de pouvoir manger, être soigné, être tranquille en fait. Voilà, tout simplement.
Très bien, mais c'est une très bonne réponse. Bah merci Manon et Mélanie.
Merci à vous.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !